Bonsoir. Ça va bien, même si on va tous mourir. Hein? On chantait « Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. » Quelle joie, quelle suprême grâce. On pourrait dire qu'on trippe sur Dieu. Ça se dit-tu, ça? Triper sur Dieu. Je poserai une question. Quand vous pensez à Dieu, qu'est-ce qui vous fait triper sur Dieu? Il y a bien des choses, il y a toutes sortes de qualités, des attributs de Dieu. On a chanté sur sa fidélité, on a chanté sur sa grâce. Avec les jeunes en bas à U-Turn, on voit l'Évangile, puis c'est tout ce plan-là de Dieu. Ici, dans l'Épître aux Éphésiens, où ce qu'on est rendu, on a une phrase que Paul a lancée de même, qui faisait triper Paul dans le milieu de sa cellule en prison. Il n'était pas dans les meilleures conditions. Mais dans un seul jet, dans une seule phrase, sans ponctuation, sans rien, il nous a donné 14 versets d'exclamation, de louange, de réjouissance, de tripage sur Dieu. Et qu'est-ce qui a fait triper Paul dans cette situation-là qui se trouvait, dans cette lettre-là, dans cette épître qu'il nous a laissée? Vous savez, vous avez peut-être lu dans l'Écho ce matin au sujet de l'épreuve que moi et Mélanie ont fait face juste dernièrement, on l'a su jeudi passé. Mais c'est une épreuve difficile. On le sait que notre enfant va mourir. On ne sait pas quand, on ne sait pas s'il va naître, on ne sait pas combien de temps il va durer après sa naissance. Mais on le sait que bon, il va mourir, lui, puis il va aller en présence du Seigneur. Mais qu'est-ce qui peut faire triper quelqu'un dans une situation difficile? Et moi, Mélanie, quand on a su la nouvelle, puis après, quand on s'est mis à parler ensemble, ce qui nous a fait le plus accrocher, c'est la souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu, d'un Dieu qui est capable de tout faire, qui opère tout selon son bon plaisir, selon sa volonté, et qui ne perd jamais le contrôle. On va prier, ensuite on va regarder ce que Paul avait à nous dire. Seigneur notre Dieu, on voudrait te remercier pour ta parole. On te remercie qu'elle nous enseigne, elle nous apprend sur qui tu es. Et Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, que tu es un grand Dieu, un Dieu souverain, un Dieu qui est en contrôle de tout, qui ne perd pas le contrôle, qui a un plan, qui a des objectifs, puis qui les atteint toujours. Seigneur, on te remercie pour ce merveilleux plan que tu as fait pour justement faire de nous tes enfants. Et on prie ces choses au nom de ton Fils. Amen. Tournez avec moi dans Éphésiens, au chapitre 1. Notre frère Laval, la semaine dernière, a commencé la phrase de Paul, mais il n'a pas fini sa phrase. Donc, il a pris la première section. Si vous regardez à partir du verset 3 jusqu'au verset 14, c'est une seule phrase dans le texte original. Et c'est pour ça que je ne commencerai pas au verset 7 à lire. Je vais commencer au début de la phrase et on va la finir aujourd'hui du verset 7 au verset 14. Alors, lisons ensemble. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Imaginez toute cette phrase-là sans ponctuation. C'est soufflant. Mais tout ça, comment est-ce qu'on peut résumer tout ce que Paul vient de décrire là, tout ce qu'il vient de dire, tout ce qu'on vient de lire dans cette phrase-là, cette exclamation-là? C'est dur à faire. J'ai eu de la misère à essayer de trouver une seule phrase qui pourrait résumer tout ça, mais on voit certaines choses dans cette phrase-là. Premièrement, on voit Dieu. C'est une exclamation de qui Dieu est, de son plan, de ce qu'il fait. Mais on voit Dieu dans sa personne, sa Trinité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début, la première section, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur ». Et là, ça continue. C'est cette section-là de 3 à 6 parle de l'œuvre du Père. Ensuite, 7 jusqu'à 13 parle de l'œuvre du Fils et 13-14 parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, dans un seul jet, dans une seule phrase, il nous amène les 3 personnes de la Trinité qui ont chacun un rôle dans ce grand plan-là que Dieu avait. Et si aussi on peut regarder dans cette phrase-là entière, qu'est-ce qu'on voit? C'est un plan que Dieu avait établi depuis la fondation du monde pour faire de nous ses enfants, ses héritiers, qui allaient sauver, qui allaient racheter, puis qui allaient sceller par le Saint-Esprit. Tout ça dans un jet. Et Paul, je ne sais pas si vous connaissez en français une subordonnée. C'est quoi une subordonnée en français? Une clause subordonnée, c'est bon, tu pars une phrase, puis là, t'as un mot qui est là, puis en dessous, t'as que, et ça continue. Bon, mais cette phrase-là, si ce texte-là, si je ferais un schéma, c'est t'as une phrase au début, et des subordonnées, et des subordonnées, et des subordonnées, et ça s'en va en diagonale. Je l'ai fait un peu, là, je sais pas si vous voyez de loin, mais ça s'en va en diagonale. C'est une phrase que Paul, il déballe. Et sur chaque affaire, quand il parle d'une affaire, il déballe encore sur... Il développe davantage sur ce qu'il vient de parler. Donc, on va regarder notre texte qui est devant nous ce matin. Oui, je suis fatigué. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, en qui? Donc, c'est une subordonnée. On revient à la première chose qui est avant. Le bien-aimé. Vous regardez au verset 6. « Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » C'est qui le bien-aimé? Jésus-Christ, notre Sauveur. Il dit « En lui ». Et si vous remarquez, dans tout, on est encore un peu dans l'introduction de l'Épître aux Éphésiens, mais dans toute l'Épître aux Éphésiens, c'est un petit mot que vous risquez de croiser souvent. Je l'ai relu et relu l'Épître aux Éphésiens, et c'est en lui, en Christ, en Jésus. Regarde, ça revient, c'est partout dans l'Épître. Notre position, dans le fond, dans tout, on est en Christ. Et c'est pas l'expression qu'on entend souvent dans le monde, d'être en Christ, ça veut pas dire pas en toute la même affaire. Mais dans toute cette sphère-là de le salut qui est en Christ, on est dans son corps, et c'est tout ce thème-là qui va développer. Et dans la section de 7 à 12, Paul développe justement un des thèmes, et il ne développe pas, il mentionne, il présente un des thèmes qui va revenir au chapitre 3 d'Éphésiens, qui est le mystère de l'Église. C'est quoi le mystère de l'Église? Et il développe là, et ensuite il va parler du Saint-Esprit. Il dit, « Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ça commence où, tout ce plan-là? Bon, ben ça commence, on l'a vu dans les versets précédents, ça commence de toute éternité. De toute éternité, Dieu nous avait, avant la fondation du monde, Dieu nous avait élus. Mais ensuite, on voit la rédemption par son sang. C'est quoi rédemption? Un mot qu'on utilise tout le temps, à tous les jours. Racheter? Racheter, c'est quoi? Moi, je suis habitué avec les jeunes en bas, je les fais parler. Ça parle moins ici. C'est quoi racheter? Racheter, ben c'était vraiment sur l'image de l'esclavage, où ce que un maître, quelqu'un était sur l'esclavage et quelqu'un arrivait et il le rachetait de l'esclavage. Et dans ce cas-là, c'est Jésus qui nous a rachetés. Et par son sang, c'était le prix qui devait être payé. Le pardon des péchés, Dieu nous a donné, au travers de ça, il nous a pardonné de nos péchés. Et j'aime la petite phrase, moi je veux pas mettre d'emphase sur tout ce qui est dit, parce qu'on pourrait en avoir pour des semaines, mais « selon la richesse de sa grâce ». C'est une belle phrase, ça. Dieu nous a pardonné, il nous a racheté, le prix qu'il a payé, c'était selon la richesse de sa grâce. Si moi, je donnais selon ma richesse, ça ne serait pas bien, bien cher. Si Bill Gates donnait selon sa richesse, ça pourrait être un petit peu plus. S'il donnait de sa richesse, on a la différence entre donner de sa richesse ou selon sa richesse, mais là, on a le Dieu de l'univers qui donne selon la richesse de quoi? De sa grâce. Tout ce qui, cette grâce-là qui est en Dieu de vouloir donner, ce qu'on ne mérite pas. Et selon la richesse de cette grâce-là, Dieu l'a répandu, comment? Il dit selon la richesse de sa grâce, et en plus de ça, il dit l'a répandu abondamment. C'est plus que selon la richesse de sa grâce. Ça dépasse tout. Sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, il nous a fait connaître, et là, ce que je voulais en venir tout à l'heure, le mystère de sa volonté. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et on voit dans le chapitre 3 d'Éphésiens, et je ne développerai pas encore là-dessus, parce qu'il y en a qui vont m'en vouloir après, mais qui arrivent pour en parler, mais le mystère de sa volonté. Et c'était quoi ce mystère-là? Paul nous dit que c'était quelque chose qui n'était pas connu, qui n'avait pas été révélé avant. Dans l'Ancien Testament, vous ne le trouverez pas. C'était quelque chose de complètement nouveau et dont on fait partie. Et comment ça, on fait partie de ce mystère-là? Bien, parce qu'on est en Christ. Si vous voulez voir le passage clé, le passage thème de toute cette phrase-là, puis même, je dirais, il vient chercher pas mal de tout Éphésiens, puis... Regardez au verset 10. Pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Tout le long d'Éphésiens, je disais le petit mot en Christ revient tout le temps. Ou ce que, bon, on est en Christ, on a ça, en Christ. Et quand on est en Christ, mais là, ici, on voit vraiment, il dit, le but de tout ça, c'était d'amener toutes choses pour qu'ils soient réunis en Christ. Et regardez quelques autres versets qu'on voit dans Éphésiens. Éphésiens 1, 20, 23. Ça dit, 20 à 23, il dit, « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Une expression qui revient, il dit « remplit tout et tout est en lui ». Éphésiens 4, au verset 4, il dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Encore là, un rassemblement de tous en Christ. Chapitre 4, verset 10. Il dit, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Un thème, un focus que Paul voulait mettre ici, que tout se dirigeait vers Christ et en Christ. Et c'était ce mystère-là qu'on voit. On va revenir en arrière au verset 9. Je pense que j'ai sauté un verset. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Bon, c'est ça. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, encore là, c'était le dessein en lui-même, c'était son plan. Son plan, si vous regardez, c'était quoi le plan de Dieu dans toute l'éternité? C'était-tu que les hommes soient sauvés? Le plan de Dieu de toute éternité. Est-ce qu'il est centré? Est-ce que le plan de Dieu de toute éternité est centré sur l'homme? Est-ce qu'il est centré sur moi? Sur mon salut? Ce n'est pas ce qu'on voit ici, ce n'est pas ce qu'on voit dans la plupart des passages de la Bible. Le but, le plan de Dieu, c'était d'amener tout, de tout soumettre à Christ. Mais après ça, regardez, on en fait partie. Il dit de tout réunir en toutes choses dans le Christ. Et au verset 11, il dit, là je switch de version, verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus... » C'est pas ça. Ouais, OK. « En lui, nous avons... » OK, j'ai la Darby en avant de moi puis la nouvelle édition de Genève. Ben, on va prendre la nouvelle édition de Genève. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Un passage qui a fait couler de l'encre un peu, parce que la manière qui est traduite pouvait être traduite de deux autres manières qui n'allaient aucunement à l'encontre du contexte. Ben, il y en a une qui est pas trop évidente. Mais les deux principales, c'était ce passage-là au verset 11. Il dit, « En qui nous avons aussi été faits héritiers. » Donc, dans un sens, ce mot-là peut vouloir dire « héritier ». Mais dans l'autre sens, il peut vouloir dire aussi « avoir été fait héritage ». Ce qui vient changer encore le sens du texte. Mais qui ne change pas, et qui, dans le contexte, ce qui était compliqué, moi je regardais les deux manières que ce texte-là pouvait être traduit, et là, qu'est-ce qui donne le sens à un mot? Ben, c'est son contexte. Qu'est-ce qui fait que je vais choisir une traduction plutôt que l'autre? C'est le contexte dans lequel le mot est mis. Sauf que si on regarde avant, et que je vois que le but c'était de mettre toutes choses ensemble en Christ, et dit « En qui nous avons aussi été fait son héritage ?» ayant été prédestiné selon le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, il fit avec le contexte d'avant, où ce qu'on serait l'héritage de Dieu. Et si je le prends avec le contexte d'après, il dit « En qui nous aussi, nous avons été faits héritiers ?» Et là, on voit le verset 13, il dit que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Donc, je ne trancherai pas. Moi, je penchais un petit peu plus vers la position qui dit que en qui nous aussi nous avons été faits son héritage. Pourquoi je penchais un peu plus sur ce côté-là? Parce que le passage est divisé d'une manière où ce que chaque section se termine par une petite phrase qui nous détermine c'était quoi le but de Dieu dans ce qu'il faisait. Regardez au verset 6. On voit tout ce que Dieu a fait dans le chapitre, verset 3 jusqu'à 5. Il nous a adoptés, il nous a prédestinés. Et au verset 6, il dit, « À la louange de la gloire de sa grâce. » Tout ce que Dieu a fait, c'était pour la louange de la gloire de sa grâce, pour la louange de sa gloire, pour qu'il soit loué. Où est-ce qu'on retrouve cette phrase-là encore? Qui va avoir la première réponse? J'ai pas de bonbon pour le gagnant, mais... C'est où la prochaine fois qu'on revoit cette phrase-là? Verset 12. On voit ce verset-là. « Afin que nous soyons, quoi? À la louange de sa gloire. » Et où est-ce qu'on le retrouve encore? Verset 14. « Pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. » C'est comme si Paul développait, à chacun de ces aspects-là, il développait tout un point qui terminait par « À la louange de sa gloire », tout ce que je viens de développer, c'est « À la louange de sa gloire ». Il développe un autre point à partir du verset 7. Il le termine au verset 12, « À la louange de sa gloire ». Et il prend un autre point au verset 13 et il le termine, le but, c'est « À la louange de sa gloire ». C'est une manière de le voir, mais l'autre traduction est correcte aussi, où ce qu'on la voit. La plupart des traductions françaises traduisaient où ce qu'on a été fait héritier, ce qui est complètement exact aussi. On le voit dans d'autres passages de la parole. Et aussi, ça va avec le contexte d'après. Mais de voir on a été fait son héritage, je veux poser un peu là-dessus. On a été fait l'héritage de Christ. Quelle position que ça nous met, ça? C'est-à-dire, on a vu tout là, à partir du verset 7, comment il nous a amené le pardon des péchés. Vous aviez vu avant dans les passages comment on avait été mis dans la position de fils. On avait été, bon, en tant que fils, on est aussi héritier. Mais il nous a fait connaître sa volonté et on est tous mis en Christ, dans son corps, un terme qu'il va développer plus tard. Mais aussi, on a été fait son héritage. On est à lui, c'est comme si on était promis à lui. C'est comme si on lui appartenait et un jour on va être complètement en sa présence à lui. On a été fait son héritage ayant été prédestiné selon le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Le but de Dieu, c'était qu'on lui appartienne, qu'on soit à lui afin que nous soyons à la louange de sa gloire. On est-tu si important que ça qu'on puisse se faire appeler? Tu sais, un héritage, quand tu reçois un héritage, quelqu'un qui meurt ou quelque chose de même, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose que, à moins que tu hérites des dettes de quelqu'un, là. Mais dans la plupart des cas, tu hérites des biens de quelqu'un. Et c'est quelque chose de précieux. Et nous, dans tout ça, le plan de Dieu, c'est qu'on est, l'héritage de Christ. Et on voit dans Jean, puis dans la prière de Jésus, « Ceux que tu m'as donné. » Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, on voit Jésus qui dit « Ceux que tu m'as donné. » On a été donné par Dieu à Christ comme héritage pour pouvoir louer sa gloire. Un autre détail important qu'on voit dans ce texte-là, entre les versets 7 à 12 et le verset 13, un changement qu'on voit qui change de ton, c'est quoi un pronom? OK, ça remplace le nom. Ben, admettons, les pronoms personnels, c'est quoi? Je, tu, il, nous, vous, il, etc. Regardez les pronoms dans ces passages-là. En qui nous avons aussi été faits héritiers et été prédestinés selon le propos de celui qui vient, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ, en qui vous. Pourquoi pas le changer de ton, tout d'un coup? Il a changé de pronom. Il dit, en qui vous aussi, vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'espérance de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Un changement de tout d'un coup de même. Et ça nous ramène à un autre thème qui va être développé dans Éphésiens. Dans Éphésiens, le mystère caché de tous les temps, que le monde avait bien de la misère à comprendre, puis que Paul révélait ici, c'était quoi? C'était uni en Christ. Mais quoi qui était uni en Christ? Juifs et païens. Des gens de différents. C'était irréconciliable dans la pensée des Juifs de dire de pouvoir être sur le même pied d'égalité dans un même tout qu'avec des païens. C'était crotté là. Tu ne pouvais pas mettre ça égal. Et c'était le mystère que Dieu allait réunir tout en Christ et incluant nous, les païens, et il allait nous réunir avec justement son plan avec les Juifs pour faire de nous une entité dont la tête est Christ, le chef suprême de l'Église. Dans Éphésiens 3:3, il dit « C'est par révélation que j'ai connu le mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Et comme je dis, je vais laisser celui-là qui va couvrir le chapitre 3 en parler. Mais c'était ce mystère-là qui revient dans Éphésiens aussi, qui était la présence, les païens aussi, qui avaient une place à jouer dans le plan de Dieu, donc en nous. Et ça dit, il passe ici, il dit « Afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ. » Bon, les premiers dans l'ordre qui ont accepté le salut, c'était les Juifs. Des Juifs, dont Paul, qui ensuite sont allés, et il y a les païens qui ont cru après, en qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est les arts de notre héritage. Et il vient ici, direct en partant, mettre les païens sur un même pied d'égalité. Vous savez, dans les livres des Actes, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a déclenché le processus qu'ils ont commencé à dire, « Hey, les païens, c'est quoi qu'on fait avec eux autres? » Les païens ont reçu le Saint-Esprit. Quand Corneille, quand Pierre est allé dans la maison de Corneille et qu'il a parlé de l'Évangile et Corneille s'est converti avec sa famille et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre est revenu à Jérusalem puis là il dit aux autres, « Hey, il dit, la même chose qui nous est arrivée à eux aussi. Ils ont reçu le Saint-Esprit. » Puis là, ils se réjouissaient puis là, ils ne savaient pas trop. Et plusieurs occasions, quand les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit aussi, c'était comme, « Wow, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne comprend pas. » Et vous lisez tout le développement des Actes, on voit ce cheminement-là vers la compréhension que Paul va justement nous révéler dans Éphésiens, qu'on est tous mis sur le même pied d'égalité en Jésus-Christ. Vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. C'est un autre passage qu'on voit, et un autre thème qui revient dans Éphésiens, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le Saint-Esprit dans Éphésiens? Connaissez-vous des passages clés sur le Saint-Esprit qu'on voit dans Éphésiens? Éphésiens 4:30 commence par « N'attristez ». « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Scellé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, scellé du Saint-Esprit? Ça, on a entendu parler, vous n'avez probablement déjà, mais c'est juste un rappel. Qu'est-ce que ça veut dire être scellé du Saint-Esprit? C'était quoi un sceau dans la pensée, justement, de ceux qui étaient là? C'était une étampe. Bon, soit de la cire ou quelque chose de même, mais ça l'étampait l'identité, ça l'étampait l'appartenance de cette chose-là. Si tu avais une lettre qui t'arrivait et qui était étampée de l'empereur, tu savais que, bon, ça venait de l'empereur et ça venait pas de personne d'autre parce qu'il y avait juste le sceau de l'empereur, il y avait juste une copie de ce sceau-là. Ça donnait, c'est à qui cette chose-là? Une autre chose qui servait un sceau, c'était pour marquer la sécurité. Quand une chose scellée destinée à quelqu'un, mettons, d'un empereur à quelqu'un d'autre, une lettre scellée, t'es mieux de ne pas déceler si ce n'est pas toi le destinataire de la lettre. C'était une garantie, c'était quelque chose qui empêchait justement de dire on va fouiller dans un courrier. À cette heure, on a des enveloppes, des affaires-là, et si vous allez à l'épicerie ou plus à la pharmacie, il dit prenez pas ce produit-là s'il est décelé. Mais c'était un peu le sceau, c'était la marque, il dit quand le sceau est bon, c'est dit c'est sécure. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la tombe de Jésus? Quand les pharisiens sont allés voir pour avoir la tombe gardée, ils l'ont scellée, le sceau de l'empereur. Quand quelque chose est scellé, il y a juste quelqu'un avec une plus haute autorité qui peut briser ce sceau-là. Ben, avec dans le cas de Jésus, c'est évident, il y a une personne avec une plus haute autorité que le sceau de Rome qui a brisé ce sceau-là, et c'est Dieu lui-même. Mais un sceau, ça marque une appartenance, ça marque une sécurité, ça montre à qui ça l'appartient. Vous avez été scellé du Saint-Esprit. Vous avez une marque, ce qui n'est pas sur vous, mais en vous, qui montre à qui vous appartenez, qui vous garde, qui vous sécure, dans le fond, votre éternité. Et cette marque-là, c'est le Saint-Esprit. Posez une question, est-ce qu'une marque, c'est visible? Quand que je dis je mets une marque, un sceau sur quelque chose, je m'arrange que ça soit visible d'habitude. je vais sceller quelque chose. Mais un sceau qui était mis, il n'était pas mis en dedans de l'enveloppe. Il était mis sur le dessus. Nous autres, on est scellés de l'intérieur par le Saint-Esprit qui est en nous, mais est-ce que c'est visible? Et ce que je dirais, c'est que ça devrait l'être. Le sceau du Saint-Esprit qui est dans nos vies devrait être visible. Et ce Saint-Esprit-là, regardez ce qu'il dit juste après, c'est le Saint-Esprit de la promesse. Saint-Esprit que Dieu avait promis d'avance, qui est les... Moi, je vais changer de traduction pour celui-là. Lequel est un gage de notre héritage. Certaines traductions disent les arts. Les arts, ça ne me dit pas grand-chose. Mais qui est un gage de notre héritage. Ce même mot-là s'applique aussi à une bague de fiançailles. Quand je parlais de la sécurité, qui est du sceau, mais c'est encore plus une image. C'est un gage, c'est une bague de fiançailles que Dieu nous a donnée. Le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, il est un engagement de la part de Dieu qu'on va avoir tout le reste qui vient avec. Et c'est quoi cet héritage-là? Je me posais la question, il parle d'héritier, il parle qu'on a un gage de notre héritage. C'est quoi cet héritage-là? Une fortune? C'est-tu le palais d'ivoire? C'est-tu ça notre héritage? Un gage, si d'habitude, c'était de la même nature que le prix qui devait être versé ensuite. Quand on donne un gage, quand tu donnes un acompte, aujourd'hui, le mot qui pourrait être le plus compris, c'est acompte. Quand tu t'es allé acheter mes pneus d'hiver, il dit, regarde, tu peux-tu me les faire, puis moi, je vais venir les chercher demain. Bien, il dit, regarde, pour être sûr que tu viennes les chercher, tu vas me mettre un acompte. Tu vas me mettre 100$ de côté, puis ce 100$-là va être payé, puis après ça, tu me resteras le restant des poulets après. Non, c'était pas des poulets, c'était la même chose, c'était des piastres. J'ai donné des piastres en gage et je devais donner le restant des piastres après. Et ça me pose encore la question. On dit, c'est quoi cet héritage-là dont on a un avant-goût par le Saint-Esprit en nous? Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit en nous? Il nous transforme à l'image de Christ. Et comme tout tourne, qu'on voit et qu'on va le voir dans tout Éphésiens, comme tout tourne autour de Christ, notre vie aussi progressivement est transformée à l'image de Christ. Et on a un avant-goût ici sur terre du jour où on va être complètement à l'image de Christ. Pas qu'on va être Dieu, mais dans toute notre perfection, nos défauts, nos larmes, nos pleurs, nos péchés complètement enlevés. Et ça va être justement le point culminant. Il dit, les arts de notre héritage pour, et le but de ça, c'est pour la rédemption de la possession acquise. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il dit, qui est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. C'est quoi la rédemption encore? On l'a vu, un mot qui revient. Le rachat de ceux qui s'est acquis. Mais là, il y a un problème. Hein? C'est un gage en attendant, un avant-goût en attendant que Dieu nous rachète. Combien d'entre vous vont être rachetés? Combien d'entre vous ont été rachetés? Oui, bien, moi, d'habitude, dans ma tête, j'ai été racheté par le sang. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 7, on a été racheté par le sang de Jésus-Christ qui a payé du prix de son sang, de sa vie, pour qu'on soit sauvés. Mais n'oubliez pas que le salut, c'est en partie. On a été sauvés en partie dans le passé, de nos péchés passés, de nos péchés présents, mais notre corps, notre péché dans nos vies est encore présent. Le rachat n'est pas complet. Et un jour, quand justement, ce moment-là, quand vous voyez au verset 10, pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, et les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre en lui, quand on va être ramené avec lui et qu'on va être complètement racheté Là, ça va être complètement, notre rachat va être complet. Délivré de la présence du péché, délivré du péché qui est en nous aussi. Et tout ça, c'est dans quel but? Que finalement, on soit heureux. Est-ce que c'est ça le but? Ça serait un bien faible but. Le meilleur but que tout l'univers a, on le sait que c'est le meilleur parce que Dieu a choisi que ce soit ça, c'est à la louange de sa gloire. Tout tourne autour de la louange de sa gloire. Que ce soit dans tout le plan que Dieu a fait, que ce soit notre adoption qu'on voit au début, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, tout avant la fondation du monde qui nous avait choisis, qu'on soit saints, irréprochables devant lui, qu'on a été adoptés, c'est selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire. Le fait qu'on est avec lui, de tout ce mystère-là de l'Église qui est un seul corps rassemblé pour la louange de sa gloire, et le fait qu'on est héritier des promesses de Dieu, que toutes les promesses que Dieu nous a faites, on va hériter et qu'on va être semblable à Christ, c'est pour la louange de sa gloire. Et c'est bien beau dire tout ça, la louange de sa gloire dans le futur, ça va être à la louange de sa gloire, tout ce qui est le plan de Dieu, c'est à la louange de sa gloire, un jour on va y arriver. Mais est-ce que c'est juste un jour on va y arriver? Qu'est-ce qu'on fait de la louange de sa gloire dans la vie de tous les jours? Et je reviens à ma question du début. Qu'est-ce qui nous fait triper de Dieu? La louange de sa gloire. Est-ce que comme Paul, on peut s'asseoir et commencer à déballer qu'est-ce qu'on apprécie de Dieu? Tout son plan. Est-ce qu'on est capable de faire ça, de s'asseoir et de vraiment exprimer ce qu'on sait de Dieu, ce qui nous fait capoter. Excusez les choix des mots, mais c'est les mots les plus forts que je pouvais penser. On a toutes ces choses-là à la louange de sa gloire, qu'on puisse chaque jour se rappeler de louer notre Dieu et de ne pas justement se laisser aller à juste penser que tout le plan de Dieu puis tout ce qui m'arrive, c'est pour que je sois heureux. Le but de la vie, ce n'est pas mon bien-être, mais la gloire de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, on voudrait te remercier parce qu'on fait partie de ton plan. Tu aurais pu choisir un plan tout autre, tu aurais pu choisir un plan qui met de côté la race humaine à cause de nos péchés, puis qui est juste toi puis les anges, Seigneur. Mais tu as choisi de prendre des pécheurs comme nous, de les racheter, même au prix de ton Fils, et qu'on puisse faire partie de ton plan, Seigneur. Et pas juste ça, Seigneur, tu as choisi qu'on puisse être tes enfants, ce grand privilège-là. Et pas juste ça, Seigneur, qu'on soit héritier avec toi, avec Christ. Seigneur, on te remercie. Pas juste ça aussi, Seigneur, tu as choisi qu'on allait être aussi à l'image de ton Fils, de Jésus-Christ. Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu fais, Seigneur, parce que tout est à toi, notre vie est à toi, toute notre existence, Seigneur, tourne autour de toi. On est en toi et on veut vivre justement d'une manière digne de cette vocation-là. Seigneur, on te remet cette soirée entre tes mains, selon Jésus qu'on t'en prie. Amen.